La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux discours les plus marquants du 44e président des États-Unis d'Amérique.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Les premiers mots de Barack Hussein Obama prononcés devant le Capitole lors de la cérémonie d'investiture de son premier mandat. Celui dont les prénoms sont africains et musulmans. Celui dont la peau est noire a suscité un taux de participation historique pour son élection à la présidence des États-Unis le 4 novembre 2008. Plus de 60% des électeurs se sont déplacés, un record depuis 1960, pour plébisciter le sénateur de l'Illinois, candidat démocrate né en 1961, à une époque où les Afro-Américains ne votaient pas dans le sud des États-Unis.
Mes chers compatriotes,
I stand here today,
je suis là devant vous,
humble, by the task before us,
face à la tâche qui nous attend,
grateful,
reconnaissant
the trust you've bestowed,
de votre confiance,
mindful
et attentif
of the sacrifices borne by our ancestors,
aux sacrifices de nos ancêtres.
Le 44e président des États-Unis, orateur hors norme, est en version originale sous-titrée dans La Marche du Monde, de son investiture historique à la Maison-Blanche, aux 50 ans de la marche pour les droits civiques à Selma. Nous réécoutons sa voix et nous nous interrogeons sur les mots et sur les références historiques qu'il a choisies tout au long de ses deux mandats.
Oui,
nous.
The people,
le peuple,
have remained faithful to the ideals of our forebears,
sommes restés fidèles aux idéaux de nos aïeux et fidèles aux écrits de nos actes fondateurs.
So it has been,
c'est ainsi que nous avons été et c'est ainsi que nous devons être avec cette génération d'Américains.
That we are in the midst of crisis,
que nous traversions une crise est entendu. Notre nation est en guerre contre un réseau tentaculaire de violence et de haine. Notre économie est très affaiblie, en partie par l'appât du gain et l'irresponsabilité de certains, mais aussi par notre échec collectif à faire des choix et à préparer la nation à un nouvel âge.
La voix d'Obama entre les oreilles de notre invitée historienne Caroline Roland-Diamond, spécialiste des mouvements sociaux américains et de la longue histoire de la ville de Chicago, chère au cœur d'Obama. C'est la ville où je suis devenue un homme, a-t-il écrit. C'est aussi la ville où il a prononcé son discours d'adieu. Alors comment définir le rapport particulier du président Obama avec l'histoire, Caroline Roland-Diamond?
Bonjour.
Bonjour.
Bon, on vient de l'entendre, dès ses premiers mots en tant que président, dans son discours d'investiture, il se place, voilà, il se remet dans une longue lignée historique. Il fait référence aux aïeux, aux ancêtres. Et pour lui, bien sûr, premier président noir, ses mots ont une résonance particulière. Cette inscription dans l'histoire est typique des discours d'investiture de président. Tous le font, mais quand c'est Barack Hussein Obama qui les prononce, ces mots-là amènent toute l'histoire des luttes des Africains-Américains et des Noirs-Américains plus généralement, pour l'égalité et la justice.
Il cite effectivement le sacrifice des ancêtres. Alors « we the people », nous le peuple, c'est également une constante dans les discours de Barack Obama, on va l'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie dans sa façon, au fond, de penser la fonction présidentielle ?
Il a toujours vu sa fonction comme étant donc le défenseur de tous les Américains. Bien sûr, c'est le président des États-Unis d'Amérique. C'était un des discours forts qu'il avait prononcé. Il n'y a pas une Amérique divisée, une Amérique blanche, une Amérique noire. Il y a des États-Unis d'Amérique. Il se présentait comme le président de tous les Américains et il a toujours voulu défendre, dans cette visée, avec une visée de progrès social, le peuple. Non seulement donc, les élites, mais également le peuple dans toute sa diversité, qui est très riche dans la nation américaine.
Alors on s'interroge évidemment sur ce « nous », et c'est la question d'ailleurs que se pose Ta-Nehisi Coates, l'écrivain et ami de Barack Obama. Dans son texte récent, « My President Was Black », il affirme que Barack Obama se vit sincèrement comme le président de tous les Américains, c'est ce que vous dites, parce que son histoire personnelle lui permet de réellement faire confiance aux Noirs, bien sûr, mais aussi aux Blancs. Qu'en pensez-vous en référence à sa biographie ?
Bien sûr, donc c'est un président noir, mais c'est un président avant tout métis. Mm-hmm. On n'oublie pas que sa mère était blanche, originaire du Kansas, et son père donc kényan. Donc deux étudiants qui se rencontrent sur le campus de l'université d'Hawaï. Donc son père qui est parti alors que Barack Obama était très jeune, il avait à peine 2 ans. Et puis sa mère qui se remarie avec cet autre étudiant étranger indonésien. Donc il a grandi dans un milieu comme ça, avec des origines très diverses.
Sans traumatisme, dans un milieu aimant et assumant cette mixité.
Absolument. Il faut voir le courage de sa mère. C'était un choix audacieux, un choix de vie vraiment rare à cette époque. Alors, Hawaï était une société multiculturelle qui détonnait dans les États-Unis d'Amérique. Il a cette richesse dans son histoire depuis sa plus tendre enfance.
Ce que le peuple attend de son leader, c'est qu'il voit en lui ce qu'il a de meilleur, a confié Obama à Ta-Nehisi Coates. Barack Obama n'a pas de compte à régler avec les Blancs. Il leur fait réellement confiance et son itinéraire le prouve.
Nous sommes venus aujourd'hui proclamer la fin des reproches mesquins et des fausses promesses, des récriminations et des dogmes désuets qui ont depuis trop longtemps étranglé notre politique. Nous sommes toujours une nation jeune, mais dans les mots de la Sainte Écriture, le temps est venu de mettre de côté les choses de l'enfance. Le temps est venu de réaffirmer notre esprit endurant, de choisir ce qu'il y a de mieux dans notre histoire, de porter plus avant ce don précieux, cette idée noble, léguée de génération en génération, la promesse de Dieu que tous sont égaux, que tous sont libres et que tous méritent la chance de poursuivre leur part entière de bonheur.
Alors j'avoue que ce n'est pas tous les jours qu'on dispose d'une telle archive sonore et j'imagine que l'historienne que vous êtes s'en régale, Caroline Diamond-Roland.
Bien sûr, c'est des mots vraiment très forts et qu'on a plaisir à réécouter.
Et j'aimerais votre analyse d'ailleurs sur la façon dont Obama convoque l'histoire comme moteur du rêve américain, cette part de bonheur.
Bien sûr, c'est la quête du bonheur comme un des droits fondamentaux de tous les Américains. Donc il rappelle là dans ce discours fondateur. Et puis donc il explique bien que cette quête du bonheur, c'est une quête longue. C'est une quête qui s'inscrit dans l'histoire, qui est léguée donc de génération en génération, que chaque génération construit. Chaque génération apporte sa pierre à ce long édifice de quête du bonheur, d'égalité pour tous, d'égalité des chances pour tous les Américains.
Et il fait appel à la génération d'Américains qui est celle de son élection, à la génération qu'il avait d'ailleurs déjà interpellée dès sa candidature à l'investiture démocrate. C'était le 10 février 2007. Il disait « Chaque fois, une nouvelle génération s'est levée et a accompli ce qui s'avérait nécessaire. Aujourd'hui, nous devons nous soulever de nouveau. Il est temps que notre génération réponde à cet appel. » On retrouve le « nous » encore une fois, car ceci est notre foi inébranlable, l'impossible. Le peuple qui aime son pays peut le changer. À quel grand changement fait-il référence, à votre sens ?
Il est arrivé dans ce contexte historique très très difficile. Donc le pays est en proie à 2 guerres. Il y a une crise économique quasiment sans précédent. Il faut remonter vraiment aux années 30 pour avoir une situation identique. Donc il y a un contexte historique très difficile. Donc plein de défis à relever pour cette génération. Et donc, dans un contexte économique si difficile, il y a le grand défi qui est celui de la solidarité entre les différents groupes sociaux. Et au-delà de cette solidarité purement économique, il y a une solidarité sociale et une solidarité raciale qui est vraiment le défi que cette génération actuelle, la génération qui est devenue maintenant plus nombreuse que la génération du baby-boom, doit relever.
Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de René Lake, qui l'a suivi de près ces années Obama. René Lake, sénégalais, patron de LTL Stratégie, installé à Washington, ancien militant à l'université de Dakar. Il est investi dans le camp démocrate, il a participé activement pour la première campagne d'Obama et il travaille à favoriser les relations afro-américaines.
Barack Obama, c'était aussi la réconciliation de l'Amérique avec son passé, hein, son passé esclavagisme dans ce pays, avec tous les problèmes qui sont allés avec et que l'on vit encore de nos jours, les problèmes raciaux qui se posent aux États-Unis. Globalement, le rêve américain était un rêve de blanc. Et il a amené justement à ces minorités, que ce soit les latinos, que ce soit les gays, que ce soit les noirs, bien entendu. Maintenant, le rêve américain est possible.
C'est le sens de notre liberté, notre credo, la raison pour laquelle les hommes et les femmes et les enfants de toutes les races, de toutes les croyances, peuvent se rejoindre sur cette esplanade magnifique, et la raison pour laquelle un homme, dont le père il y a moins de 60 ans, n'aurait peut-être pas été servi dans un restaurant local, se tient debout devant vous pour prêter le serment le plus sacré.
Penelec, de votre point de vue, est-ce que ces deux mandats ont changé quelque chose dans la question raciale ?
Oui, Barack Obama a beaucoup médiatisé sa présence à la Maison Blanche. Je vous rappelle qu'il y a quoi, moins de trois générations, hein, à peu près 70 ans, les Noirs n'avaient absolument pas accès à la Maison Blanche, bien qu'ils en ont été les bâtisseurs à l'époque de l'esclavage. Vous savez, très souvent au plan international, je sais même en Afrique, pourtant un continent de Noirs, les gens ne se rendent pas compte de à quel point les difficultés que les Noirs américains ont eu dans ce pays sont relativement récentes. Vous savez, en Alabama, ce n'est qu'en 2000 que les mariages mixtes ont été autorisés. Jusqu'en l'an 2000, on ne pouvait pas, un noir ne pouvait pas épouser une blanche, un blanc ne pouvait pas épouser une noire. Et tenez-vous bien, le référendum qui a permis cela, il y a eu 40% d'opposition, 40% de non, 40% de la population d'Alabama s'opposait au mariage mixte. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, c'est un long processus et je pense qu'effectivement, d'un point de vue au moins symbolique, la présence d'Obama et de sa famille à la Maison Blanche aura une portée sur plusieurs décennies, je pense même plusieurs siècles.
Mais vous n'êtes pas déçu que le président noir Barack Obama ne se soit pas personnellement engagé pour la cause de la justice raciale aux États-Unis ? Parce que là, on est vraiment dans le symbole pour l'instant. Mais où sont les actions concrètes ?
Oh, je pense que les actions concrètes, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que ce n'était pas des actions spectaculaires, parce qu'il n'en avait pas tellement les moyens, notamment les moyens législatifs, puisqu'il ne contrôlait pas le Sénat, aucune des deux chambres du Congrès n'était contrôlée par les démocrates, et comme vous le savez, les républicains se sont opposés à plusieurs des projets de réforme de Barack Obama. Mais quoi que l'on dise, quand même, Obamacare, la réforme sur la santé a été une réforme qui a bénéficié très largement aux Noirs ici aux États-Unis. Et c'est ce qui explique que quand même il a été fortement soutenu par la communauté noire en 2012 quand il se représentait pour un deuxième mandat.
Dans le pays le plus riche du monde, personne ne devrait être ruiné parce qu'il est malade. La couverture sociale n'est pas un privilège pour quelques fortunés. C'est un droit. C'est pourquoi nous allons la mettre en place. Plus nous nous rapprochons de l'échéance, plus les opposants au projet sont irresponsables. Ils nous menacent de mesures très néfastes pour notre économie. Pas à cause de la couverture sociale, mais à cause de ce qu'ils font. Certains menacent les services publics de fermeture s'ils ne peuvent pas supprimer la loi. Certains menacent de cesser de payer les factures du pays s'ils ne peuvent pas retarder la loi. Cela n'arrivera pas tant que je suis président.
Vous écoutez la voix de l'ex-président Barack Obama dans La Marche du Monde, un président en rupture, à la différence de son prédécesseur et de son successeur. Il pense que l'État américain doit intervenir et garantir une sécurité santé pour tous, et plus particulièrement pour les plus pauvres. Alors est-ce qu'on peut qualifier Obamacare d'action du 21e siècle pour les droits civiques ? Et je vous pose la question, vous l'historienne des droits civiques, Caroline Diamond-Roland.
Effectivement, cette grande loi Obamacare est en rupture nette avec l'Amérique conservatrice qu'on a vue depuis la fin des années 60, les années 70 et surtout les années Reagan puis Bush. Et les années Clinton n'ont pas vraiment infléchi la donne dans un sens plus progressiste. Et là, donc, on a une rupture nette avec un retour à une tradition historique inaugurée dans les années 30 avec Roosevelt et son New Deal, et surtout élargie et prolongée dans les années 60 avec la grande société du président Johnson. Donc on a à la fois rupture avec les années conservatrices de cette Amérique, des années 70 aux années 2000, mais inscription dans une durée plus longue de l'histoire, réinscription dans la lignée des grands présidents progressistes, de Roosevelt à Johnson.
C'est un sujet donc qui s'inscrit dans l'histoire longue. À quand remonte le vote sur la sécurité sociale, la loi ?
Donc la grande loi qui crée la sécurité sociale aux États-Unis date de 1935. Donc sous les années Roosevelt, c'est la mesure phare du second New Deal, enfin du New Deal. Et ensuite, par contre, donc c'était un système qui était très limité à l'époque et qui en particulier ne bénéficiait pas à plusieurs catégories de travailleurs, les travailleurs agricoles et les domestiques. Donc finalement, étaient exclus de cette loi sur la sécurité sociale les Noirs. Pas uniquement, mais très largement les Noirs. Et ça a été progressivement corrigé, et surtout le système de protection sociale a été très nettement élargi et amélioré dans les années 60, en particulier en 1965, avec la création de ces deux grandes lois phares, Medicare et Medicaid. Medicare, qui donne une assurance maladie aux personnes âgées de plus de 65 ans, et Medicaid, qui offre cette même protection aux personnes défavorisées.
Alors on l'a dit, Obama ne s'est jamais présenté comme un militant de la cause des Noirs, mais comme le leader de tous les Américains. Reste que le symbole a été et restera exemplaire, surtout avec un couple et une famille ultra classe. C'est un pur destin américain, incarné par Michelle. C'est l'éducation, la clé de son succès.
That story of opportunity through education is the story of my life. It can be their story too, but only if they devote themselves to continuing their education.
Michelle incarne le combat des Afro-Américains et vole la vedette à son président de mari.
My wife. It's hard to speak after her. Yeah. Everybody's so excited that Michelle's here.
What about me?
So. Being your first lady has been the greatest honor of my life. And I hope I've made you proud.
Thank you.
L'émotion de Michelle Obama, je suis fière d'avoir été votre first lady, dit-elle lorsqu'elle fait ses adieux. Comment Michelle Obama s'inscrit-elle en tant que first lady, justement, quelle rupture, le couple a-t-il incarné? Qu'est-ce qui est important du point de vue de l'historienne que vous êtes?
Il y a une rupture nette avec l'entrée de la famille Obama à la Maison-Blanche, et cette rupture est la présence, même dans ces lieux, d'une famille noire. Et donc, autant Barack Obama, par ses origines, métisses, diverses, avec donc son père africain, ses premières années de jeunesse à Hawaï, incarnait une Amérique, effectivement, de couleur, mais une Amérique autre que l'Amérique africaine-américaine. Tandis que Michelle Robinson, elle a grandi dans le South Side de Chicago, donc dans le quartier historique noir de Chicago, dans une famille pas très riche. Et effectivement, c'est l'éducation qui lui a permis de faire sa carrière. Donc son entrée à la Maison-Blanche est encore plus historique, si l'on veut, en tant que First Lady, que presque celle de son mari en tant que président. Enfin, tout au moins, ensemble, disons que le couple représente un cas tout à fait sans précédent. Et donc, avec elle, arrive à la Maison-Blanche, donc non seulement toute cette histoire de la lutte des Africains-Américains pour l'égalité, pour l'élévation sociale, en grande partie par l'éducation, mais arrive aussi à la Maison-Blanche une femme tout à fait accomplie, une professionnelle, une avocate renommée. Et alors, c'est pas la première fois, on a déjà vu Hillary Clinton comme First Lady. Mais là, on a cette femme noire qui revendique sa couleur de peau, son histoire et son succès qu'elle a conquis à la force du poignet.
Et qui ne blanchit pas sa peau, elle.
Crank it up.
Oh. Stevie. No way.
Did you know that Stevie Wonder is my favorite?
He's the best.
Like a fool, I went and stayed too long.
La voix Obama entre vos oreilles, à vous auditeurs de RFI, c'est à suivre, reste à l'écoute.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Barack Obama en version originale dans La Marche du Monde. Le 44e président des États-Unis a convoqué l'histoire de l'Amérique dès son investiture.
Our challenges may be new.
Nos défis peuvent être nouveaux.
The instruments with which we meet them may be new.
Les instruments avec lesquels nous les relevons peuvent être nouveaux.
Upon which our success depends.
Mais ces valeurs dont dépend notre succès, travailler dur et honnêtement, le courage et le fair play, la tolérance et la curiosité,
loyalty and patriotism,
la loyauté et le patriotisme,
these things are true.
Ce sont des vérités.
They have been the quiet force.
Elles ont été la force tranquille du progrès tout au long de notre histoire.
What is demanded then is a return to these truths.
Donc, ce qu'il nous faut, c'est retrouver ces vérités.
Nous sommes à l'écoute des discours de Barack Obama dans La Marche du Monde, histoire de comprendre comment le premier président noir des États-Unis s'inscrit dans l'histoire. Un président en rupture avec son prédécesseur, parce qu'il est démocrate, parce qu'il est progressiste et parce qu'il a du style. Exit la cow-boy diplomatie chère à George Bush, la guerre contre la terreur et le choc des civilisations. Et welcome au smart power, le pouvoir de l'intelligence et du compromis. Si Obama a le swag cher aux Afro-Américains, il ne perd jamais le contrôle, l'animal politique est froid. Il réfléchit, consulte, à l'art du compromis. Confronté à la crise économique la plus grave depuis les années 30, Barack Obama a mis en place un plan de relance économique, l'Obamacare et la réforme de Wall Street. Quelle est sa vision de l'État et quelles sont les références au New Deal de Roosevelt ou à la grande société des années 60? Ce sont les questions que nous nous posons avec notre invitée Caroline Roland-Diamond. Est-ce que Barack Obama, au fond, active l'American Way of Life?
Tout dépend ce qu'on entend par l'American Way of Life, mais il essaie de... il remet sur le devant de la scène donc ses valeurs traditionnelles du travail, de l'élévation, ce qu'on appelle l'uplift en anglais, donc l'élévation sociale par le travail, par une moralité irréprochable, par un retour aux valeurs traditionnelles. Et donc il mentionne le patriotisme, c'en est une. Donc dans ce sens, oui. Mais il s'inscrit, et vous l'avez dit, dans cette histoire de président progressiste. Il entend mener une politique universaliste, une politique assez centriste. On voit bien qu'il manie les valeurs à la fois du patriotisme et puis de l'équité sociale. Mais en même temps, il a pour objet donc, de remettre l'Amérique en marche, de redonner un espoir à la nation. Il a une vision très forte et une détermination à faire aboutir un progrès social, un progrès collectif.
Pour tous, justement. Pour tous, cet American Way of Life, on pense notamment aux années 60 où l'accès à la grande consommation, au confort, sa voiture, sa maison, son jardin, pour tout le monde.
Mais c'est là où on retrouve son centrisme. Il n'y a pas du tout de remise en question de ce type de société centrée sur la société de consommation. Donc il l'embrasse, il l'accepte, il reconnaît son rapport très étroit avec... ce qui a fait la nation américaine dans son histoire longue, en particulier son histoire longue d'opposition à l'Union soviétique. Il faut remettre ça dans le contexte de la politique étrangère et de la politique intérieure des États-Unis. Il embrasse ceci, il entend mener son action au service de tous les Américains.
Alors justement, en ce qui concerne la politique étrangère, c'est une nouvelle stratégie qui est inaugurée par Obama et son équipe. Il s'agit de restaurer l'image des États-Unis dans le monde et de renoncer aussi à cette image un peu de va-t-en-guerre hein, liée aux années Bush. Alors ce qui lui vaut aussi des accusations de faiblesse, hein, voire de nullité. Et il laisse par exemple le leadership du dossier syrien à la Russie. Il faut le reconnaître, il s'éloigne de l'Europe et se tourne vers l'Asie. Alors au fond, quelle est la philosophie du président en tant que leader du monde libre, parce que c'est un vocable, une terminologie à laquelle, pour le coup, il ne renonce certainement pas. C'est une terminologie même qu'il revendique largement dans ses discours. Comment s'inscrit-il par rapport au monde, à la différence de ses prédécesseurs?
Il rompt avec ses prédécesseurs en ce sens qu'il ne veut pas de politique décidée de manière unilatérale. Il est pour le multilatéralisme, il est pour les discussions, pour les négociations avec les alliés occidentaux, les alliés du monde libre. Effectivement, il se présente comme le leader du monde libre et il entend mener son action sur les différents fronts qui lui sont imposés par l'actualité internationale dans ce sens de la conciliation, dans la fermeté. Enfin, dès 2002, il y avait un grand discours, il disait « Je ne suis pas opposé à toutes les guerres, je suis seulement opposé », donc c'était son grand discours qui dénonçait Bush, « Je suis seulement opposé à une guerre stupide ». Et il a mis en œuvre cette philosophie avec un grand pragmatisme tout au long de ses années à la Maison-Blanche.
Et des engagements, évidemment, en Irak et en Afghanistan. Alors, on l'a entendu, les références d'Obama à l'histoire ne sont jamais passéistes ou nostalgiques. Au contraire, il célèbre la mythologie américaine comme une éternelle source de changement et d'invention.
Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis rétablissent formellement leurs relations diplomatiques avec Cuba et rouvrent des ambassades dans nos pays respectifs. C'est une étape historique dans notre volonté de normaliser les relations avec le gouvernement et le peuple cubain. Nous ouvrons un nouveau chapitre avec nos voisins en Amérique. Quand nous avons fermé notre ambassade en 1961, personne ne pensait que nous allions mettre plus de 50 ans à l'ouvrir de nouveau. Mais nous avons eu de profonds désaccords et parfois nous sommes piégés par notre manière d'agir. Les États-Unis ont persévéré dans une politique qui ne fonctionnait pas. Au lieu de soutenir la démocratie pour les Cubains, nos efforts ont isolé Cuba. Malgré les bonnes intentions, nous avons produit l'effet inverse, gelant un statu quo et isolant les États-Unis de ses voisins. Les progrès accomplis aujourd'hui sont une démonstration que nous ne devons pas être emprisonnés dans le passé. Quand une politique ne fonctionne pas, nous pouvons changer et nous le ferons.
On se penche sur la rhétorique de Barack Obama, on écoute avec précision ses mots et on peut constater que lorsqu'Obama critique, ce n'est jamais pour accuser. Et ça, c'est vraiment une grande constante dans ce discours, Caroline Roland-Diamond.
En effet, il reste toujours très modéré dans sa rhétorique, il ne va jamais trop loin. Il dénonce les excès de la politique anticommuniste des États-Unis en disant que voilà, on a fermé notre ambassade à Cuba. Finalement, personne n'avait prévu qu'on allait mettre tant de temps avant de la rouvrir. Mais donc, il dénonce une attitude qui était excessive, qui n'a pas produit les résultats escomptés, sans accuser personne.
En particulier. Il dit nous, encore une fois.
Toujours, nous sommes responsables de cet échec.
Au point que certains, d'ailleurs, lui reprochent d'être le président des excuses, celui qui s'excuse tout le temps.
Disons qu'il prend sa part de responsabilité bien volontiers dans les erreurs commises.
Un Obama donc qui assume les erreurs du passé pour mieux se reconstruire. Alors vous le savez, j'ai sollicité le témoignage de René Lake pour cette émission consacrée au grand discours d'Obama. C'est l'occasion pour le chef d'entreprise sénégalais installé aux États-Unis de nous donner sa vision du bilan extérieur du président.
Je crois que principalement, et je me souviens de son discours au Ghana, où il disait qu'il était plus important d'avoir des institutions fortes que des hommes forts, il a bien poussé les Africains à ce que l'on puisse construire un état de droit, un état démocratique, de véritables valeurs démocratiques. Au Sénégal, quand il y a eu justement des problèmes avec le président Ablaye Wade à l'époque, qui cherchait à forcer pour faire une sorte de troisième mandat, je n'ai jamais vu l'Amérique s'impliquer autant. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines était présent au Sénégal pendant les élections pour mettre de la pression sur Ablaye Wade pour qu'il accepte le résultat des élections. Même chose en Côte d'Ivoire. À l'époque, j'ai travaillé avec le président Alassane Ouattara qui était dans l'opposition et je me souviens quand, à la sortie de crise, il m'a demandé d'appeler Susan Rice pour la remercier. Les États-Unis ont joué un rôle extrêmement important dans la préservation et la sauvegarde des valeurs démocratiques en Afrique.
De votre point de vue, René Lake, est-ce que Barack Obama a redéfini la relation de l'Amérique au monde ?
Oui, je crois. Déjà en mettant fin à l'anti-américanisme, Barack Obama a donné un autre visage de l'Amérique. Disons qu'il a ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain ne s'est pas traduit, ne s'est pas exprimé avec l'arrogance à laquelle beaucoup étaient habitués venant de l'Amérique.
Nous commencerons par laisser l'Irak à son peuple de façon responsable et nous forgerons une paix durement méritée en Afghanistan. Avec de vieux amis et d'anciens adversaires, nous travaillerons sans relâche pour réduire la menace nucléaire et repousser le spectre d'une planète qui se réchauffe. Nous ne nous excuserons pas pour notre mode de vie et nous ne fléchirons pas pour le défendre. Et pour ceux qui recherchent à avancer vers leur but en instaurant la terreur et en massacrant les innocents, nous vous disons maintenant que notre esprit est plus fort et ne peut être brisé. Vous ne pourrez pas nous survivre et nous vous vaincrons. Nous savons que notre héritage de diversité est une force, non une faiblesse. Nous sommes une nation de chrétiens,
Jews and Hindus,
de juifs, d'hindous et de non-croyants.
We are shaped by every language and
culture. Nous sommes formés par toutes les langues et cultures venues depuis tous les recoins de la Terre. Et comme nous avons goûté la lie amère de la guerre civile et de la ségrégation, et que nous sommes sortis de ce sombre chapitre, renforcés et plus unis, nous ne pouvons nous empêcher de croire que les anciennes haines se tariront un jour, que les lignes de démarcation entre tribus s'effaceront. Et alors que le monde devient plus petit, notre humanité commune se révélera et l'Amérique doit jouer son rôle pour faire entrer cette nouvelle ère de paix. Au monde musulman, nous recherchons une nouvelle façon d'avancer en nous appuyant sur les intérêts communs et le respect mutuel.
L'adresse aux musulmans de Barack Hussein Obama sur RFI, un homme qui incarne à lui seul le melting pot américain hein, entre ses différentes origines, différents prénoms, son père kényan, sa mère américaine aux origines écossaises, irlandaises et cherokee. Remarquez, ça fait un très très beau résultat. Hein. Il est l'américain multiracial, il est l'Amérique multiraciale et d'ailleurs Caroline Roland-Diamond, ça a fait largement polémique. Hein.
Il a suscité, avant même son élection et encore plus dès qu'il a été élu, une haine qu'on n'avait pas vue depuis des années. Une méfiance et une suspicion donc, vis-à-vis de ses origines, comme quoi donc, il y a eu toutes ces rumeurs sur le fait qu'il n'était finalement pas américain. En partie menée par un personnage haut en couleur à l'époque, qu'on tournait un peu en dérision à ce moment-là, Donald Trump. Et cette polémique a perduré très longtemps, a poussé Obama à devoir produire son acte de naissance pour prouver qu'il était américain. Et puis, on a assisté aussi à une libération de la parole raciste contre lui, contre Michelle Obama, avec des propos très durs, des caricatures, des insultes de la plus basse espèce qu'on n'avait pas entendues aux États-Unis depuis vraiment des années, depuis les années 60. Et même, il faut peut-être remonter même encore plus loin au tournant xénophobe du début du siècle, du 20e siècle, pour voir une telle violence.
Beaucoup de sympathisants d'Obama, d'ailleurs, craignaient même un éventuel assassinat du président hein, dans un pays extrêmement violent où d'autres présidents ont été assassinés avant lui.
Tout à fait. Puis avec la prolifération des armes que l'on connaît, il y avait ce risque pendant toutes ces années de présidence.
Alors par ailleurs, qu'il le veuille ou pas, le fait d'être noir, intelligent, stylé président n'a pas forcément permis aux blancs, notamment pauvres, de reconnaître Obama comme le président. Et là, est-ce qu'on n'a pas justement une sorte d'inversion du point de vue historique hein, première fois qu'un noir est président, première fois que les blancs au fond se sentent déclassés?
Alors, ce n'est pas la première fois que les Blancs se sont déclassés. Il y a un sentiment de déclassement qui est manifeste dans la classe ouvrière blanche, ou la petite classe moyenne blanche, depuis la fin des années 60, et qui était déjà une réaction très virulente, viscérale, aux politiques sociales mises en place par le président Johnson et qui visait notamment, pas exclusivement, mais à aider les Noirs. Et donc, il y avait cette réaction très violente d'une partie de la classe ouvrière blanche. Cette réaction a porté Nixon à la Maison-Blanche. Et elle n'a fait que grandir depuis. Et elle a pris une intensité inédite dans les années 90, au moment de ce qu'on appelle les guerres culturelles. Et c'est sur cette vague qu'a surfé le candidat Donald Trump jusqu'à son élection.
Alors dans ses prises de parole, Barack Obama ne rate jamais une occasion de rappeler les valeurs de la démocratie. Enfin, il invite à la réflexion, il invoque l'éthique et la morale. Est-ce que son expérience de prof de droit à l'université de Chicago l'inspire toujours ?
Bah effectivement, on a l'impression à l'entendre que c'est un universitaire, donc c'est le président érudit qui sait enseigner et qui rappelle toujours et qui se répète volontiers, car on sait bien que l'enseignement passe par la répétition.
Ça peut énerver, hein.
Ça peut être un peu énervant, mais voilà, tous les étudiants de la Terre le savent.
À chaque problème, sa solution. Pour Obama, le pragmatique n'empêche que lorsqu'en octobre 2015, il se retrouve à donner une conférence de presse après la tuerie de l'Oregon, où un homme a tué 10 personnes avant d'être abattu par la police, moins de 4 mois après la tuerie raciste de Charleston, dans laquelle 9 Noirs ont péri. Le président trouve le moyen d'exprimer sa colère aux États-Unis. Tuer, c'est devenu la routine.
There's been another mass shooting in America. This time in a community college in Oregon. Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine. And what's become routine, of course, is the response of those who oppose any kind of common sense gun legislation.
L'impuissance d'Obama, que rien ni personne ne semble démotiver pourtant d'habitude, c'est rarement apparu durant ces 8 années au pouvoir, mais là on a un peu le sentiment que la coupe est pleine.
Exactement, là il y a une sorte de trop c'est trop, et qu'il n'arrive pas à contrôler sa colère, sa frustration devant ce phénomène des tueries de masse qu'il ne peut pas enrayer. C'est pas faux d'avoir essayé. Il a fait des propositions de loi et à chaque fois, il s'est heurté aux résistances du lobby des armes porté par la National Rifle Association et soutenu par les Républicains, qui font un blocage sur ce plan absolu depuis leur retour avec le contrôle du Congrès depuis 2010.
Et cette espèce de ras-le-bol qu'on vient d'entendre dans l'Oregon a eu lieu donc après cette tuerie de Charleston, c'était 4 mois plus tôt, des pasteurs noirs y avaient trouvé la mort. J'aimerais qu'on revienne sur ce moment absolument incroyable, ce moment d'hommage dans l'église de Charleston, où Obama commence par faire au fond un puissant discours d'hommage aux victimes. Alors, rappelez-vous, Roland Diamond, ce moment, c'est très intense, on est dans une église noire, pleine à craquer, vous avez vu les images. Obama est face à l'Assemblée, devant lui, les familles des victimes, la communauté, derrière lui, les responsables religieux, et au fond, il prononce un discours, c'est un sermon.
C'est un sermon directement inspiré par toute cette tradition des sermons des églises noires américaines, dont on a retrouvé les tonalités dans de nombreux discours qu'il a donnés au fil de ses années à la Maison-Blanche. Et là, donc, le lieu évidemment s'y prête, les circonstances sont on ne peut plus dramatiques, et on le voit faire œuvre de rhétorique très puissante.
Il évoque la grâce, il se demande où est cette grâce, il invite les Américains à la trouver, cette grâce, pour faire face à ce fléau qu'est la haine raciale. Et puis soudain, il s'arrête, il se tait, les lèvres sont serrées, il semble puiser au plus profond de ses pensées, et le président surprend l'Assemblée. Il chante, et moi je l'entends comme une prière.
If we can find that grace, uh-huh. Anything is possible. If we can tap that grace, everything can change. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me.
Pourquoi est-ce le moment le plus fort, au fond, pour vous?
C'est le président là, qui endosse le manteau de Martin Luther King, qui redevient le président, voilà, qui va faire un sermon religieux dans cette église, et puis un président qui ose prendre le micro et chanter a cappella ce chant que toute la communauté africaine-américaine connaît par cœur, qui représente toute l'histoire de cette lutte non aboutie, toujours un combat inachevé, qui reste à mener dans lui ce qui lui reste de son mandat, et évidemment, comme il le sait très bien, un combat qui va se poursuivre après son départ de la Maison-Blanche.
Alors, est-ce que pour vous, il fait l'acteur, ce qu'il fait très bien par ailleurs, hein, il chante, il danse, Obama, il est parfait, ou est-ce que ça remonte plus loin, c'est-à-dire que ses premiers engagements remontent quand même à Chicago, auprès des associations, auprès des églises noires? Est-ce que ce chant lui vient justement du plus profond de ses premiers engagements, à votre sens?
À mon avis, ce chant lui vient effectivement de ses premiers engagements en tant que, ce qu'on appelle en français, une traduction maladroite de l'anglais, community organizer, donc l'organisateur de communauté, ce militant de quartier qui allait aider les populations défavorisées du sud de Chicago à s'organiser elles-mêmes pour lutter contre l'habitat délabré, etc., pour demander au pouvoir public de réagir. Mais il y a aussi, par l'intermédiaire de cette mère blanche, cette histoire, ces héros connus et inconnus du long combat des Noirs pour l'égalité et la justice. Et dans ce combat, au cœur du combat, il y a les chants. Les chants religieux, les chants sont les chants du mouvement des droits civiques qu'Obama connaît, dont il s'est imprégné, qui l'ont aidé dans sa propre quête individuelle pour se s'identifier, se placer, se positionner, se reconnaître lui-même comme un Noir américain.
Nous allons entendre une dernière fois la voix du président Obama à l'occasion des 50 ans de la marche pour les droits civiques de Selma, Alabama.
Lors d'un après-midi, il y a 50 ans, les turbulences de l'histoire américaine, de la cicatrice de l'esclavage à l'angoisse de la guerre civile, du joug de la ségrégation à la tyrannie des lois Jim Crow, la mort des quatre jeunes filles à Birmingham, ainsi que le rêve d'un pasteur baptiste, tous ces événements se sont réunis sur ce pont. Ce qu'ils ont accompli ici se répercutera à travers les âges. Non pas parce que le changement qu'ils ont conquis était prédestiné,
pas parce que leur victoire était complète,
non pas parce que leur victoire était totale, mais parce qu'ils ont prouvé qu'il était possible de changer les choses sans violence et que l'amour et l'espérance pouvaient l'emporter sur la haine. Car le plus puissant des mots de notre démocratie est « nous ». Nous, le peuple. Nous parviendrons à faire face. Oui, nous pouvons. Ce mot, personne ne le possède. Il appartient à tous. Quelle mission glorieuse nous a-t-on confiée de tenter d'améliorer, jour après jour, ce grand pays qui est le nôtre. 50 ans après le Bloody Sunday, notre marche n'est pas encore arrivée à son terme. Mais nous sommes de plus en plus proches de notre but. 239 ans après la fondation de cette nation, notre union n'est pas encore parfaite. Mais nous sommes de plus en plus proches de notre but. Notre tâche est plus simple, car on a déjà parcouru les premiers kilomètres. On nous a déjà fait traverser ce pont. Et nous nous souviendrons ardemment des mots du prophète Isaïe. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous honorons ceux qui ont marché pour que nous puissions courir. Nous devons courir pour que nos enfants puissent voler. Et nous ne fatiguerons pas, car nous croyons en la puissance d'un Dieu formidable. Et nous croyons en la promesse sacrée de ce pays.
C'est un prêche.
Effectivement, c'est à nouveau un prêche, comme après celui dans l'église de Charleston. Là, c'est un nouveau sermon que le président Obama donne, un sermon historique qui inscrit son action dans la commémoration de la lutte des droits civiques. Bon, il est intéressant de voir, il célèbre ce qui était la dernière grande marche du mouvement des droits civiques avant que le mouvement noir ne continue de se radicaliser et n'adopte une idéologie dans laquelle Obama ne se reconnaît pas, l'idéologie du Black Power.
Alors, on peut dire que le livre d'histoire préféré d'Obama, c'est la Bible. Vous êtes d'accord?
Oui, sans doute, on peut dire ça, effectivement.
Alors, pour nous, en France, c'est quand même surprenant en même temps. Alors, on peut être charmé, mais au fond, c'est quand même du religieux, tout ça. Et ça ne doit pas interférer avec la politique. Pour nous, c'est une affaire privée. Quel sens le religieux prend-il chez Obama pour un président qui revendique non seulement sa diversité, mais la diversité des États-Unis, le melting pot, la diversité des religions, la place de l'athéisme? Quel sens ça prend aujourd'hui, au XXIe siècle?
C'est tout à fait important. C'est vraiment c'est l'Amérique de demain. C'est cette Amérique diverse sur le plan religieux. Et ça correspond à son parcours. C'est Obama, quand il était en Indonésie, quand il était donc enfant, il a fréquenté des écoles à la fois catholiques et écoles musulmanes. Ensuite, quand il est retourné à Hawaï, qu'il a grandi, qu'il a été élevé par ses grands-parents étaient non-croyants, une autre façon d'être. Et puis ensuite, il s'est converti à la fin des années 80. Et c'est là où il a adhéré à l'église du pasteur très controversé, Jeremiah Wright. Donc, ce qui lui a été beaucoup reproché au moment de sa campagne présidentielle. Et donc, il a une conversion à l'âge adulte qui accroît sa ferveur religieuse. On la sent dans de très nombreux discours. Ce n'est pas une ferveur qui est feinte. C'est une ferveur qui est profonde et qui lui permet, à lui tout seul, de par son parcours, d'incarner cette diversité, cette tolérance religieuse qu'il espère sera la marque de l'Amérique de demain.
Merci Caroline Roland-Diamond. Je rappelle votre dernier livre, Black America, aux éditions La Découverte. Et n'hésitez pas à danser et à chanter avec Obama, je sais que vous l'adorez vous aussi. L'histoire retiendra ses soirées et concerts à la Maison Blanche. You can do it. Come on. You can do it. Hey. Come on.
Sweet Home Chicago.
La voix Obama, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin. Elle aussi, elle a le swag. Réagissez sur la page Facebook de l'émission, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you.
President Obama ending on the mantra that carried him into office 8 years ago. Yes, we can. Speaking to a packed crowd here at McCormick Place Convention Center in Chicago, his official...